Je vous invite à vous tourner avec moi dans les petits prophètes. Après Joël, nous allons aborder le prophète Amos. C'est un petit prophète par la dimension de ses écrits, mais comme tous les petits prophètes, il a une très grande importance et on va prier pour que Dieu nous parle profondément, qu'il nous interpelle, qui nous encourage, qui nous reprenne par sa parole. Seigneur, merci pour la Bible que nous pouvons avoir entre les mains, Seigneur. Merci de ce qu'elle est aujourd'hui encore le livre le plus traduit au monde, le livre le plus vendu au monde. Et Seigneur, il y a des gens qui consacrent encore leur vie pour la traduire dans des langues qui ne l'ont pas encore. Seigneur, souvent ces personnes peuvent avoir accès à la Bible par d'autres langues, mais elle n'existe pas encore en luxembourgeois, elle n'existe pas encore en corse, en entier. Et Seigneur, nous sommes au bénéfice de pouvoir lire ta parole dans beaucoup de versions. Merci de ce que elle ne change pas. Les traductions, les petites variations sont dues au langage, mais pas au sens réel et profond de ta parole, Seigneur. Et tu veux nous interpeller, tu veux nous reprendre. Seigneur, nous sommes bénis de pouvoir simplement, semaine après semaine, mois après mois, année après année, la lire, la commenter, chercher comment elle s'applique dans nos vies. Seigneur, je te remercie pour le témoignage d'une personne hier qui m'a dit qu'en fait, d'avoir pris l'habitude de lire la Bible de cette façon était pour elle une bénédiction, qu'elle se sentait préservée de toute fausse doctrine, parce qu'elle savait qu'elle pouvait aller voir ce que ta parole disait sur les choses qu'on lui annonçait. Seigneur, c'est notre prière, que nous ayons une solide fondation et que cette fondation, elle puisse servir à édifier nos vies, Seigneur. Nous sommes ici pour quelques années, quelques décennies. Ta parole, elle, demeure éternellement. Et nous avons le privilège, Seigneur, de pouvoir la lire, de pouvoir l'écouter, de pouvoir l'étudier ensemble. Bénis ce temps. Donne-nous d'avoir des cœurs malléables devant toi, que nous puissions changer, Seigneur. Le changement, c'est maintenant, disait un homme politique. Et on sait pourtant que le changement, c'est pas évident. Mais toi, Seigneur, tu as toute puissance et nous voulons te donner toute liberté pour nous transformer, pour nous changer de plus en plus à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci pour cette promesse que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Ce pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur, c'est notre prière ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amos. Il a exercé son ministère à peu près 25 ans avant que le royaume du Nord soit emmené en exil par les Assyriens. Il était lui-même du royaume du Sud. Mais il s'est adressé en fait au royaume du Nord. Il avait la mission de parler au royaume du Nord. Et le royaume du Nord, comme le royaume du Sud à l'époque, il y avait ces deux royaumes donc divisés après le règne de David et de Salomon. Et ils étaient très prospères. Ils avaient une vie matérielle facile relativement. Ils avaient même une vie spirituelle. Il y avait des temples, il y avait des sacrifices qui étaient offerts. Mais en même temps, cette vie spirituelle, elle était superficielle. Et Dieu a envoyé le prophète Amos pour secouer ses gens, pour secouer son peuple. Et vous pouvez peut-être vous imaginer, vous êtes à Bethel, une ville utilisée dans le royaume du Nord pour offrir des sacrifices. Il y avait un autel, il y avait un autre à Dan, tout au nord. Et il y avait des grands prêtres, en particulier un dénommé Amatsia, qui pontifiait, qui était heureux de la bonne santé, entre guillemets, du royaume du Nord. Et puis voilà qu'il y a un gars qui n'avait aucune formation théologique, un gars qui n'avait pas été entraîné pour être prophète. En fait, il était éleveur de moutons. Et ce n'était pas une profession très respectée. Il était éleveur de moutons et il faisait pousser des figues. On a dit que Joël, c'était, pour vous en rappeler, c'est le prophète des sauterelles et du jour de l'Éternel. On va voir qu'en fait, Amos, il va parler de sauterelles et du jour de l'Éternel aussi. Mais lui, pensez à une figue quand vous pensez à Amos. Et ce gars-là, il commence à parler, sans avoir demandé la permission au grand prêtre. Il commence à parler et il explique que Dieu va punir les voisins d'Israël et de Juda, toutes les nations qui les environnent. Ils vont subir la colère de l'Éternel en raison des mauvais traitements qu'ils ont infligés au peuple de Dieu, à la fois Juda et Israël. Et donc là, les gens sont tout ouïes, ils adorent qu'on tape sur les autres. Et puis, voilà qu'il commence à parler d'un jugement de Dieu sur Juda. Et le royaume du Nord, ils sont heureux de ce que Juda va en prendre plein la figure. Mais voilà que, surprise, il commence à dire que Israël va aussi subir le jugement de Dieu. Et là, il se fait expulser. Il n'est plus apprécié du tout. Il va devenir un prophète pourchassé, un prophète qui a un message qui ne plaît pas. Aujourd'hui encore, dans la chrétienté, dans l'Église de Dieu, avec un grand nom, au sens large, il y a des gens qui vont accepter que vous leur parliez de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus qui s'est incarné, de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Mais si vous leur parlez de certains péchés, à ce moment-là, ils vont vous rejeter. Ils vont même pouvoir devenir violents. Si vous continuez d'être fidèle à la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné et que vous l'annonciez, sachez ne pas être surpris quand les gens ne vous reçoivent pas avec des guirlandes, mais plutôt avec des pierres. Et donc, on va lire ce petit livre. On va passer quelques semaines. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par lire le commencement. Si vous voulez vous tourner donc avec moi dans le prophète Amos, C'est ces pages blanches au milieu de votre Bible. Le troisième des prophètes dans l'ordre de la Bible que nous avons en notre possession. Lisons ensemble, on va commencer par le chapitre, on va aller jusqu'au chapitre 2, verset 3. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël durant les règnes d'Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, « De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont écrasé Galaad sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicat-Aven les habitants et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera exilé à Kir, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont fait une foule de prisonniers pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod, les habitants, et d'Ascalon, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins disparaîtra, dit le Seigneur l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de prisonniers, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur, j'enverrai le feu dans Théman et il dévorera les palais de Botsra. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes des Ammonites, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabba, et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre, le jour du combat, au milieu de l'ouragan, le jour de la tempête. Et leur roi partira en exil, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Début du verset 2, du chapitre 2, voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab. Il dévorera les palais de Kériot, et Moab mourra au milieu du tapage, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai le juge du milieu d'elle, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Et donc là, à Bethel, lorsqu'il annonce ces choses, les gens sont tout excités. Ah oui, 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 ils aiment bien cette histoire-là. À cause de 3 crimes, et même 4. Et puis je reviens pas sur ma décision. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je vais envoyer le feu dessus, sur eux. Mais on va voir qu'il va se rapprocher d'eux en parlant de Juda. Et puis il va parler d'eux longuement et leur dire tous les péchés qu'ils commettent. Au chapitre 7, on peut s'y tourner juste rapidement, il y a une confrontation entre ce berger et le grand prêtre Amatsia, ou le prêtre Amatsia, parce que le grand prêtre était à Jérusalem, lui il était à Bethel, et Il lui dit, ça suffit, il est en colère. Verset 10 du chapitre 7. Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, c'était Jéroboam II, pas le premier qui avait commencé le royaume du Nord. Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Donc il fait dire au roi, le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. En effet, voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé au loin de son pays. Tu peux pas laisser ce type passer aux informations du journal télévisé le soir. Il dit que toi, le président de la République, tu vas être assassiné et que les Français vont perdre l'euro. C'est pas possible. Amatsia dit à Amos, visionnaire, va-t'en, fiche le camp, fuis dans le pays de Juda, va y manger ton pain. Là, tu peux prophétiser tout ce que tu voudras, mais ne continue pas à prophétiser ici, à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. C'est pas permis, tu n'es pas toléré ici. Et la réponse de Amos, c'est « Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » Les sycomores, c'est un joli nom, mais en fait, c'est des figuiers sauvages qui donnent des figues de qualité secondaire. « L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, « Va prophétiser à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël. » Et ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer, toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera exilé loin de son pays. Amos avait des cornes. Il avait du courage. Il dit au roi, il dit au prêtre qui faisait office de grand prêtre, voilà ce qui va se passer. C'est pas bon, mais Dieu m'a envoyé vous le dire. Et donc, à l'époque, vous souvenez peut-être, il y avait avec Élisée plutôt, on parlait de les fils des prophètes, ce qui semblait être une école de formation à la prophétie, ou du moins une école de formation biblique. Et lui, il dit, je n'ai pas fait d'école, je ne suis pas allé au séminaire, je ne suis pas allé à l'école biblique, je ne suis pas allé à Nogent-sur-Marne, je ne suis pas allé à Aix-en-Provence, je ne suis pas allé à la faculté de théologie évangélique, mais le Seigneur m'a appelé. Amos, c'était quelqu'un d'ordinaire comme vous et comme moi. Mais il avait reçu l'appel de Dieu et pour lui, c'était clair. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit « Va prophétiser à mon peuple d'Israël ». Cette autorité pour parler au nom de Dieu, on ne la reçoit pas en allant faire des études secondaire ou supérieur en séminaire. Le séminaire peut être une très bonne chose. On peut apprendre des langues hébraïques, on peut apprendre l'hébreu, on peut apprendre le grec. Et c'est bien d'avoir ces ressources, mais ce n'est pas ça qui fait de vous quelqu'un qui est appelé par Dieu. Ce qui fait de vous quelqu'un appelé par Dieu, c'est pas sorcier, c'est pas difficile à comprendre, c'est l'appel qui vient de Dieu. Ça peut pas être plus simple, hein. Et donc ça doit être un encouragement pour chacun de nous lorsqu'on veut agir pour Dieu. L'ennemi voudrait nous dire, mais qui tu es toi pour vouloir parler de Dieu à tes amis? Est-ce que tu sais si Dieu est capable de faire un rocher si lourd qu'il n'arrive pas à le soulever lui-même? Tu n'as pas la réponse à ces questions fondamentales? L'ennemi voudrait nous faire penser qu'on n'a pas l'autorité. C'est Dieu qui nous donne l'autorité. Et il y a beaucoup de personnes qui font ces écoles, qui vont dans ces séminaires et qui se retrouvent après confrontées à la réalité de la vie de ministère et qui laissent tout tomber. Pourquoi ? Parce que Dieu ne les a pas appelés. Ils ont pensé que ça serait bien d'étudier la Bible, et c'est toujours bien, ce n'est pas une perte de temps. Mais ce qui compte, c'est que Dieu vous parle, Dieu vous appelle. Lorsque nous avons commencé un travail à Nice, il y a bien longtemps maintenant, on est venu en 92, on avait beaucoup d'amis qui nous disaient, oh, des amis aux États-Unis notamment, qui nous disaient, oh, on aimerait bien venir travailler avec vous. J'ai toujours aimé le français. Et puis vous allez être à Nice, oh, la Côte d'Azur. C'est bien. Et j'aime tellement la nourriture française. Les baguettes, les pizzas. Non, c'est italien ça, mais les pissaladières. Les gigots d'agneau. Et peu d'entre eux, on a eu la bénédiction d'avoir des équipes qui sont venues passer du temps, qui nous ont aidés à commencer un travail auprès des étudiants à l'époque. Mais je disais toujours à ces gens, ce qui compte, c'est pas... On est béni de ce que vous sentiez, vous proposiez de venir travailler avec nous. On aimerait beaucoup vous avoir, ça serait bien d'avoir un peu de renfort. Mais ce qui va vous garder même à Nice, parce que Nice, il fait beau, mais il peut faire très mauvais, on peut se lasser du soleil, on peut se lasser des touristes. Ce qui va vous retenir, c'est pas l'amour des baguettes quand il va y avoir des problèmes et des difficultés, ni le gigot d'agneau, ni les french fries. La seule chose qui va vous retenir quelque part, c'est de se savoir appelé par Dieu. Alors c'est pas toujours évident, et on me dit, mais comment est-ce que tu sais si tu es vraiment appelé ? Et mon expérience, c'est que Dieu commence à mettre cette idée dans votre tête. D'abord, vous rejetez cette idée. Et puis après, vous commencez à obéir à cette chose en faisant une première démarche. Et puis Dieu confirme. Et moi, ma prière pendant les premières années, c'était « Dieu, ça n'a jamais été mon idée de quitter mon travail dans l'informatique pour essayer de commencer une église ». Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais soit rigolé, soit je me serais mis en colère. Ça va pas la tête. Moi, un pasteur, t'y es fou, toi. Mais ma prière, c'était de dire, Seigneur, cette idée, je sais que c'est pas moi qui l'ai entretenue par des visions de gloire ou d'agrandissement personnel, de succès, de renommée. Moi, je voulais pas être en face de gens pour parler de la Bible. Ça, c'était. Mais Dieu confirme et il appelle. Et en fin de compte, on sait que c'est lui qui a appelé. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais l'idée de pouvoir dire Seigneur. C'était pas mon idée pour commencer. Maintenant, c'est à toi de solutionner, de régler les problèmes qui se passent en ce moment. Que ce soit des problèmes de personnes, des problèmes avec d'autres églises qui ne nous acceptaient pas parce qu'on venait envahir leur turf. Pensez, il y avait peut-être 500 chrétiens dans une ville de 350 000 habitants. Ah, mais c'est notre quartier, là. Tu peux aller, non, dans l'autre rue, ça ira, mais pas là, tu serais trop proche. Et désolé, je crois que le Seigneur a ouvert les portes. Et le Seigneur ouvre les portes que personne ne peut fermer et ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Donc si vous avez quelque chose sur le cœur que le Seigneur vous demande de faire, priez, demandez-lui de confirmer, demandez-lui, mais c'est ce qu'a fait Amos. Il a dit, moi j'y étais pour rien, j'étais derrière le troupeau, j'étais bien caché. Et il m'a pris, il m'a dit, toi tu vas aller leur parler. Et il avait ce courage justement parce qu'il ne pouvait pas se taire. Il savait que c'était Dieu qui lui avait demandé de parler. Et je suis béni par la présence parmi nous de gens qui se sentent appelés à un ministère par Dieu et qui ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Et donc Amos, il venait de Tekoa. C'est une petite bourgade à 15 quinzaine de kilomètres au sud de Jérusalem, dans le désert de, pas loin du désert de Judée. Et il est dit que c'était pendant les règnes d'Ozias et de le roi Ozias sur Juda et de Jéroboam II, le fils de Joas, donc sur Israël. Et on pense que c'était aux alentours de l'an 750 avant Jésus-Christ qu'il a prononcé ses prophéties. Et puis, il commence en disant, il cite en fait, c'est intéressant, « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. » Ça, en fait, c'est des paroles qui ont été prononcées par Joël, verset 4, chapitre 4, verset 16, juste le dernier petit prophète qu'on a étudié. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Là, il sait qu'il doit, donner un avertissement à Juda et Israël, et en plus annoncer le jugement qui va venir sur les nations autour de ces deux pays. Donc il dit seulement, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Encore une fois, il n'utilise pas le mot commun pour berger, il utilise le mot de éleveur de troupeaux. Le mot berger pouvait aussi avoir à l'époque un sens spirituel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, disait Dieu par l'intermédiaire de David. Là, il veut dire qu'il était vraiment, c'était quelqu'un qui s'occupait d'animaux. Il n'avait pas de formation théologique, encore une fois, comme il le rappellera, comme il l'annoncera clairement au chapitre 7 qu'on a déjà lu. Il sait ce que c'est que d'entendre un lion qui rugit. À l'époque, il y avait encore des lions dans la Palestine. Vous vous souvenez que David avait tué un lion, et donc les lions, et il avait entendu le rugissement d'un lion. Et typiquement, on me dit, j'ai pas trop d'expérience avec les lions, et j'en suis très heureux. On dit que lorsqu'un lion rugit, normalement, c'est qu'il va sauter sur sa proie. Le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui il peut dévorer. Et là, il a entendu la voix de l'Éternel qui est prêt à exercer son jugement. C'est ce qu'il dit à ceux qui l'écoutent. Les pâturages des bergers sont dans le deuil. Le sommet du Carmel est desséché. C'est prophétique, il sait que les brebis de l'Éternel vont être pour certaines mangées. Aujourd'hui, dans notre région, dans le parc du Mercantour, on a réintroduit des loups et les bergers sont dans le deuil bien souvent parce qu'un seul loup va égorger sans nécessairement avoir besoin de consommer les bêtes, mais ils ont cet instinct de tueur qui ne sera plus là lorsque nous serons avec le Seigneur pour son règne de 1000 ans. C'est cette férocité, cet aspect sanguinaire des animaux les uns envers les autres, c'est un résultat du péché originel, nous est-il dit dans Romains et dans d'autres passages. Et il commence donc par le sommet du Carmel est desséché. Quand on va en Israël, on peut aller au sommet du mont Carmel. là où il y avait eu des prophéties réalisées avec le prophète Élie avait mis au défi les faux prophètes. Il y avait 800 faux prophètes qu'il avait mis au défi de faire tomber le feu sur pour allumer l'autel d'un où il y avait un taureau à sacrifier. Et on sait que c'est lui qui avait invoqué l'Éternel et qui avait gagné. Mais aujourd'hui encore, on voit, il y a plein de forêts, c'est boisé. Mais là, il voyait déjà le jugement qui était tombé sur Israël. C'est dans la portion d'Israël, la portion du Nord. Le sommet du Carmel est desséché. Ça aurait dû déjà mettre la puce à l'oreille de ses auditeurs qu'il avait écouté à Bethel en se réjouissant d'abord de toutes les mauvaises nouvelles qu'il donnait concernant ce que les ennemis d'Israël. Alors vous l'avez remarqué, il va faire une liste des ennemis d'Israël, les nations voisines, et ils étaient vraiment entourés de nations hostiles à Israël. Il y avait la Syrie, capitale Damas, ça c'est la première qui est visée, du verset 3 au 5. Ensuite, il y avait le territoire des Philistins, à Gaza, versets 6 et 7. Ensuite, il y avait le territoire des Phéniciens, le territoire de Tyr. Les Phéniciens, c'était les grands marins de l'époque. Probablement eux qui ont créé des colonies à Marseille, à Nice, en Corse. C'était les Phéniciens dont la capitale était Tyr, T-Y-R. Ensuite, il y avait deux autres nations, Édom et les Ammonites, qui eux étaient des descendants d'Ésaü et qui s'était opposé férocement et traîtreusement souvent à Israël. Et puis, Édom, et puis après il y a les Ammonites et les Moabites, eux c'était des descendants de Lot, lorsqu'après le déluge, les filles de Lot avaient eu des relations avec Noé. Il en était résulté deux peuples, les Ammonites et Moab. Donc il y a déjà 6 nations à qui il promet un jugement. Et il a cette expression « à cause de 3 crimes et même de 4, je ne reviens pas sur ma décision ». Alors c'est pas à prendre de façon arithmétique en disant qu'ils avaient commis 3 péchés, puis ils se souvenaient au dernier moment « ah oui, j'avais oublié celui-là, ça fait 4 ». Non, c'était une façon de dire que leurs péchés s'étaient accumulés, empilés les uns sur les autres. À cause de 3 crimes, même de 4. Et aujourd'hui, on dirait parce qu'ils ont commis un péché de trop, ou ils n'arrêtent pas de pécher. Et cette idée que Dieu ne revient pas sur sa décision, c'est quelque chose qui peut faire peur, parce qu'on sait que quelque part, la décision de Dieu à mon égard, ça devrait être la punition éternelle parce que j'ai commis des péchés. Et Dieu ne revient pas, il n'est pas un homme, nous dit la Bible dans le livre des Nombres, pour revenir sur ses décisions. Et là, il le dit, c'est comme ça à cause de tous ces péchés qui s'empilent et je ne vais pas revenir sur ma décision. Alors nous sommes au bénéfice de la croix de Jésus. C'est là qu'on doit remercier Dieu, être plein de reconnaissance pour dire qu'en fait, Dieu qui devrait nous punir et qui peut ne pas, qui normalement ne revient pas sur sa décision, en fait, il nous donne une chance. Il nous donne une chance de prendre la bonne décision pour Jésus-Christ. Si nous mettons notre foi en lui, à ce moment-là, parce que la colère est déjà tombée sur Jésus, la colère que nous méritions est tombée à la croix, nous sommes au bénéfice de la sainteté parfaite de Jésus et Dieu nous accepte dans sa famille. Donc lorsque nous lisons ce petit prophète et que nous voyons à cause des trois péchés, je ne reviens pas sur ma décision, on se dit, oh là là, ce passage ce matin, c'est mal tombé là, aujourd'hui, c'est pas drôle à lire. En fait, Dieu veut que vous arrêtiez et que vous réalisiez le pardon de vos péchés. Dieu vous permet de ne pas être sous le coup de sa colère, sous le coup de son jugement. Et son jugement, on le voit, c'est répété à chaque fois. Il n'envoie pas les inondations, même si ce n'est pas drôle, même si on a l'impression que c'est la fin du monde lorsque on plaint tous ces personnes qui ont été inondées en Île-de-France et dans d'autres régions, dans le nord de la France. On voit tout qui est recouvert, tout ce qui est perdu, les voitures, les appareils électroménagers, les maisons, les choses à jeter. Vous vous souvenez que lorsqu'il a fait venir le déluge et que Noé en est sorti, il a promis que ce ne serait plus par l'eau qu'il exercerait son jugement. Ici, il nous dit clairement qu'il va l'exercer par le feu. Verset 4, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël. Verset 7, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza. Verset 10, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr. J'enverrai le feu, verset 12, dans Théman, qui dévorera les palais de Botsra. J'allumerai le feu dans les murs de Rabba. J'enverrai le feu dans Moab. Il dévorera les palais de Kériot et Moab mourra au milieu du tapage. J'enverrai... Plus loin, il dira, j'enverrai le feu dans Juda. C'est le feu. Et lorsqu'on sait qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison construite en bois, il y avait peu de bois en Israël, il n'y avait pas de béatrèse avec du papier et du carton. Une chose qui m'a toujours frappé, c'est comment est-ce qu'on peut mettre le feu à une muraille ? Une pierre, ça ne brûle pas, que je sache. Et en fait, j'ai eu la réponse en allant en Israël et en voyant qu'en fait, les pierres, c'est sûr, ce sont des murs en pierre, mais ces pierres, elles sont soutenues par des planches de bois sur lesquelles on les met, pour les linteaux des portes, pour les renforcer, pour les ouvertures qui servent de fenêtres. Il y a du bois dans la construction. Et si ce bois est brûlé, tout s'écroule. C'est pour ça que les maisons en pierre brûlent par le feu. Si jamais on vous demande, je ne sais pas, ça, vous me le dites, si jamais quelqu'un vient vers vous dans la rue et vous demande, comment ça se fait que ces maisons en pierre peuvent brûler ? Je plaisante, mais c'est le genre de questions qu'on ne se pose pas et en même temps, on peut se dire, ben, la Bible, elle raconte n'importe quoi et en fait, non, la Bible, elle sait de quoi elle parle. Elle a été écrite par le Dieu de l'univers. Et donc, il y a tous ces jugements qui sont promis, qui sont prophétisés à la Syrie parce qu'ils avaient écrasé Galaad sous des traîneaux de fer. Ils avaient exercé une grande cruauté pendant les guerres contre le peuple de Dieu. Il y avait Hazaël qui avait remplacé Ben-Hadad. Tous ces passages sont très riches. Si vous allez voir ce qui est dit de ces personnes, de ces villes, de ces histoires dans le reste de l'Ancien Testament, on pourrait être encore à la fin de l'été. Hazaël, Ben-Hadad, aujourd'hui on est au bénéfice de Google. On peut taper les mots et voir tout de suite des références. Et c'était... le prophète Élisée qui avait parlé à Hazaël qu'il allait remplacer Ben-Hadad, mais qu'il allait faire souffrir le peuple d'Israël, que ça allait être horrible. Et Hazaël était en colère contre ça. Donc, un peu comme lorsqu'on lit l'Apocalypse, souvent les gens veulent savoir comment ça se finit. Ils lisent l'Apocalypse, ils n'y comprennent rien. Et ils font des interprétations fallacieuses, n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut déjà avoir lu tout ce qui précède pour comprendre les allusions. Et là, un peu de la même façon, le prophète annonce des choses et ces choses sont déjà évoquées par ailleurs avant ça dans le reste de la Bible, dans le reste de l'Ancien Testament. Donc, contre la Syrie, il parle des verrous de Damas. Le peuple de Syrie sera exilé à Kir. Il parle des Philistins, de Gaza. Gaza, c'était la ville principale. Il y avait aussi la ville d'Asdod, la ville d'Ascalon, la ville d'Écron. Et le reste des Philistins disparaîtra, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de Dieu, elle s'accomplit à la lettre. Quel est le dernier jour où vous avez rencontré, quelle est la dernière fois plus exactement où vous avez rencontré des Philistins ? Je n'ai pas dit des Palestiniens parce que ça n'a rien à voir. Les Philistins n'existent plus. Les Phéniciens, à cause de trois crimes de Tyr, ils ont livré à Édom une foule de prisonniers. Ils ont commis le péché d'envoyer des enfants de Dieu, des enfants du peuple de Dieu en esclavage. Édom, dont le roi Hérode était un descendant, un Idouméen, Édom et Idouméen. Là aussi, si vous tapez Édom sur votre moteur de recherche et que vous cherchez tous les passages ou votre programme biblique, vous allez voir tous les références multiples qui sont faites à ce peuple. Eux, Dieu leur reproche d'avoir étaient cruels. Ils ont poursuivi les frères, leurs propres frères, avec haine et constamment. Ils sont toujours en colère, ils gardent éternellement la fureur, c'est la punition. Il va envoyer le feu à Botsra pendant la guerre contre Saddam Hussein. On parlait de Bosra et beaucoup pensent que c'est le même ville ou même cité antique. Les Ammonites, ils étaient le jugement de Dieu leur était promis en raison de leur terrible cruauté et de leur convoitise. Ils voulaient agrandir leur territoire et ils fendaient le ventre des femmes enceintes. La cruauté que l'homme peut, dont l'homme peut faire preuve n'a pas de limite. Et ces choses-là qui semblent inimaginables, malheureusement, ça se passe aujourd'hui encore. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme sans Dieu est vraiment une créature hideuse et méprisable. Les sentiments que nous pouvons avoir contre nos semblables, si nous ne sommes pas rachetés par Christ, ils peuvent être cachés sous le vernis de la civilisation, mais il suffit des circonstances favorables pour que ces mauvaises pulsions, ces pulsions de mort puissent ressurgir. Et ce qui est le plus terrible, c'est lorsque c'est fait au nom d'un Dieu d'amour, ou d'un Dieu tout-puissant. Suivez mon regard. Moab, c'était les péchés, c'était leur cruauté et contre les autres gens, les autres personnes, les autres. Ils avaient même brûlé et calciné les os du roi d'Édom, Moab. Ces peuples antiques avaient un grand respect pour les sépultures, pour les morts. Aujourd'hui, on pratique la crémation. Certains chrétiens sont opposés à ça en disant que on voit pas ça tellement dans la Bible. Personnellement, je sais que la poussière retourne à la poussière, donc j'ai pas de problème théologique avec l'idée de se faire incinérer. Mais à l'époque, c'était terrible. Ils avaient sorti les ossements du roi d'Édom et ils les avaient fait passer en poudre, ils les avaient calcinés. Et ça, c'était. Il fallait vraiment avoir de la haine pour s'en prendre à une personne déjà morte. Eh bien, Moab faisait preuve de cette haine. Et puis, on va lire verset 4 maintenant. « Voici ce que dit l'Éternel. À cause de trois crimes de Juda, il passe à Juda maintenant. Même de quatre, je ne reviens pas sur ma décision, même topo. Juda a commis des péchés, je ne vais pas revenir sur ma décision, dit-il. Ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses prescriptions. Ils ont été égarés par des idoles mensongères que leurs ancêtres avaient adorées. Je vais aussi envoyer le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Alors c'est vrai que il y a une première menace, on l'a vu avec en étudiant le prophète Joël, que les Assyriens allaient attaquer Juda, mais qu'ils allaient être délivrés. Ça s'est passé ainsi. En une nuit, il y a 185 000 Assyriens qui faisaient le siège de Jérusalem, qui ont été tués par l'ange de l'Éternel et la panique qui s'est déclarée dans le camp pendant la nuit. Mais on sait qu'en l'an 70, Jérusalem a été détruite par les flammes, par les troupes romaines de Titus, le général de l'empereur Vespasien, qui lui-même est devenu empereur plus tard. Et l'on dit que, comme il y avait le feu, et là encore une fois, c'était tout le bois qui participait à la construction du temple qui brûlait, et les ornements en or et les revêtements d'or de ces instruments en acacia doré. L'or a coulé et on dit que les soldats romains, pour récupérer l'or, ont décidé de renverser les murs et donc c'était un champ de ruines. Et aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, on voit l'endroit où le temple était construit, on voit justement des pierres qui sont renversées, qui justifient la prophétie s'est accomplie. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Les promesses de Dieu, que ce soit des prophéties de bonnes choses, des promesses de sa présence, des promesses de son jugement, elles sont inaliénables. On peut compter dessus. Il y en a sur lesquelles on aimerait pouvoir compter. Et puis il y en a d'autres, on aimerait bien que de temps en temps, ils changent d'avis. Lorsqu'on n'obéit pas à ses commandements et qu'on sait qu'il a promis des jugements, on peut toujours faire appel à sa grâce. Mais je vous invite à... On en parlait ce matin avec quelques-uns. Il y a un petit livre des promesses de Dieu. Alors, il y en a plus de 3500, j'ai jamais vraiment compté, mais j'ai lu qu'il y en avait près de 3500. Là, il y a un petit recueil qui est disponible au stand biblique. Je vous invite à aller voir, il y a des nouvelles Bibles. Il y a des bonnes choses là-bas, petite publicité commerciale. Mais sérieusement, le petit livre des promesses de Dieu... Quand on sait que ces promesses, on peut compter dessus. Et c'est en fait ce livre en français, on l'a en français, C'est le premier livre que j'ai acheté avant même d'être chrétien. Je devais partir de... J'étais à l'aéroport en partance pour 3 mois de formation loin de Nancy, qui venait de m'apprendre qu'elle était enceinte de Tonio. Et j'avais aucune envie d'aller passer 3 mois dans le New Jersey. Mais j'étais à l'aéroport, je voulais acheter quelque chose à lire. Et aux États-Unis, il y avait encore, j'espère que c'est toujours le cas, d'un côté, il y avait un stand, un présentoir avec des Playboy, des Playgirl, des je ne sais pas quoi. Et puis de l'autre, il y avait des livres bibliques, des Bibles. Et Dieu merci, j'ai été attiré vers ce petit livre des 400 promesses de Dieu. Et j'ai commencé à les lire dans l'avion et j'ai senti une paix. C'était la rencontre avec la parole de Dieu. Les paroles, les promesses de Dieu sont certaines. Et donc lorsqu'on fait sa volonté, même si c'est difficile, on sait que ça se termine bien. Si vous lisez le livre à la fin, vous savez que c'est bien. Mais vous n'allez pas tout comprendre parce que si vous n'avez pas lu le reste, il y a beaucoup de références qui vont vous être totalement incompréhensibles. Il dit donc, il commence à attaquer Israël directement. C'est là qu'ils ont, Amatsia s'est fâché, qu'il a été dire au roi Jéroboam II, il dit des choses sur toi, il dit que tu vas être tué, que le peuple va être exilé, il faut le faire partir ce gars, hein, moi j'en veux plus. Il dit que ça va être la pagaille dans le pays. Verset 6, voici ce que dit l'Éternel à cause de 3 crimes d'Israël. Quoi ? Nous aussi, on aime bien voir les péchés chez les autres. Et on est très fort pour reconnaître chez les autres les péchés qui sont en nous. Je remarque tout de suite les gens qui sont orgueilleux. Et le Seigneur m'a dit, c'est peut-être parce que toi tu es orgueilleux. Et je ne vais pas vous demander de partager vos expériences, mais si vous y réfléchissez bien, on est très sensibilisé aux péchés qu'on commet nous-mêmes et on les remarque chez les autres. Et on aime bien les dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est orgueilleux, lui. Et donc là, ils en reviennent pas que maintenant ce soit leur tour. Ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père s'unissent à la même fille afin de déshonorer mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des habits pris en gage et ils boivent dans le temple de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits au-dessus et leurs racines en dessous. Pourtant je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai fait surgir parmi vos fils des prophètes. Et parmi vos jeunes hommes, des Naziréens, n'est-ce pas le cas des Israélites ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Déclare l'Éternel. Et vous leur avez fait boire du vin. Vous avez donné comme ordre aux prophètes, ne prophétisez pas. C'est ce qu'il va, le prêtre Amatsia va dire, vous vous souvenez, quand on a lu un peu plus tard. Il va dire, ne prophétise pas, retourne chez toi, tu peux prophétiser tout ce que tu voudras là-bas, mais on ne veut pas entendre tes prophéties. Je vous écraserai comme un chariot de gerbe écrase le sol. Celui qui est agile ne pourra pas fuir, celui qui a de la force ne pourra pas s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers ne s'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu ce jour-là, déclare l'Éternel. Et puis on peut lire le verset 1 du chapitre 3 et 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Dieu a envoyé Amos parler au royaume du Nord. Le royaume du Nord, il était caractérisé par le fait qu'il n'y avait eu aucun bon roi. Le royaume du Sud, Juda, il y avait eu des mauvais rois, mais il y avait eu des rois qui étaient revenus à Dieu selon la façon de David. Et donc, les deux royaumes vont finalement être envoyés en exil, mais le premier, ça va être le royaume du Nord. En l'an 722, les Assyriens vont venir prendre et exiler le royaume du Nord, les dix tribus plus exactement. Au sud, il y avait Benjamin et Juda, et au nord, il y avait la plus grande, c'était Éphraïm. Toutes ces nations vont être exilées en 722. Donc, c'est comme si Dieu veut parler d'abord à ce peuple qui est le plus dans le péché, qui n'a rien fait de bon, qui se livre. Et là, il y a toute une liste terrible des comportements de péché. Ils vendaient les pauvres en esclavage, ils exploitaient les pauvres, ils se livraient à l'immoralité sexuelle au point qu'un père et son fils avaient des relations sexuelles avec la même femme. Ils prenaient des gages, ils prenaient de l'argent, c'était interdit par la loi, et surtout, ils se livraient à l'idolâtrie. Et toutes ces choses, c'est la garantie que Dieu va les juger. Et il leur rappelle toutes les bonnes choses qu'il a fait pour eux. Il a commencé par les nations qui les entouraient en disant qu'ils allaient être jugés. Elles vont être jugées parce qu'elles ont fait du mal au peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, il va être jugé et de façon encore plus sévère. Pourquoi ? Et ça, c'est un principe pour nous. Parce que à qui il est beaucoup donné, beaucoup est demandé. Ils avaient reçu les oracles de Dieu, ils avaient eu les prophètes, ils avaient vu les miracles, ils avaient vu les délivrances de Dieu, et ils se permettaient de vivre spirituellement de façon factice. Il y avait une spiritualité de surface. Ils faisaient des cérémonies, mais il n'y avait pas de sincérité. La meilleure preuve, c'était leur comportement vis-à-vis de leurs semblables. Ils aspiraient à avoir la poussière de la terre sur la tête des faibles. Ils violaient le droit des malheureux. On a dit les pères et les fils avaient des relations avec les mêmes femmes. Ils se mettaient près de chaque hôtel sur des habits qu'ils avaient volés à d'autres personnes en les prenant en gage. Alors qu'à l'époque, on devait rendre un vêtement aux pauvres parce que c'était la seule chose qu'ils avaient pour dormir la nuit, même pour se chauffer. Ils essayaient de faire pécher les Nazaréens. Les Nazaréens, c'était des gens qui se consacraient à Dieu et qui ne devaient pas boire d'alcool, qui ne devaient pas toucher les morts. Et il y avait un troisième point. Ah oui, ils ne devaient pas couper leurs cheveux, toucher les cheveux. C'était le vœu du Nazaréen. Il y avait des gens qui voulaient se consacrer à Dieu, qui voulaient respecter Dieu. Il leur faisait boire du vin. Et aux prophètes qui étaient là pour annoncer la parole de Dieu, il leur disait « Ne prophétisez pas ». Et là, il dit qu'il va les écraser comme un chariot de gerbes écrase le sol. On voit le paysan. Ce n'était pas le théologien, mais il savait ce que c'était que de voir une carriole pleine de récoltes qui roulait dans la terre et qui écrasait les quelques plantes qui restaient. Et il dira, rien ne vous secourera. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu ce jour-là. Et il s'adresse au verset 1 du chapitre 3, il s'adresse à tout le peuple de Dieu, parce qu'il parle de la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. C'était les 12 tribus, c'était ceux du nord, ceux du sud avant qu'ils se divisent. Je vous avais choisi parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Ça, c'est un avertissement de la parole, pas seulement de l'Ancien Testament, que ceux qui ont beaucoup reçu, il leur est beaucoup demandé. Nous qui sommes ici, nous avons la possibilité, nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu le salut, nous allons être jugés plus sévèrement. Moi qui vous enseigne la parole, Jacques nous dit, mets en garde, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner parce qu'un jugement plus sévère sera exercé envers nous. On n'a pas d'excuse. Les païens ont l'excuse des fois de... Ils pêchent contre leur conscience, mais ils ne pêchent pas contre la loi ni l'évangile. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui et nous rappeler, nous ne pouvons pas nous permettre de pécher contre la vérité que nous avons reçue. Amen. Seigneur, ce sont des avertissements sévères et solennels et en même temps que nous avons, je sais que j'ai besoin d'entendre et que nous avons tous besoin d'entendre, je le pense. Nous devons prendre notre relation avec toi au sérieux. Le message que tu nous as donné, Seigneur, tu veux que nous le répandions autour de nous, tu veux que nous le vivions, tu veux que nous soyons un parfum de bonne odeur pour ceux qui nous entourent et ne te connaissent pas encore. Seigneur, tu es tout-puissant et être sous le coup de ta colère, c'est quelque chose qui devrait nous effrayer, Seigneur. Ne nous permets pas de tolérer le compromis dans nos vies, Seigneur, les péchés habituels qu'on ne cherche pas de tout notre cœur, de toute notre force avec ton aide à terminer, Seigneur. Tu sais que ce sont des choses qui te fâchent, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-nous. Seigneur, aide-nous à recevoir ce message. Merci pour ta parole parce qu'elle est bonne pour nous enseigner, pour nous instruire dans tes voies, mais aussi pour nous reprendre, pour nous corriger, Seigneur. Reprends-nous aujourd'hui. Et toutes ces choses dont Israël était coupable, Seigneur, aide-nous à voir si d'une certaine façon, d'une autre façon peut-être plus moderne, que ce soit la pornographie sur Internet, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'égoïsme, que ce soit le matérialisme, que ce soit l'idolâtrie, toutes les choses qui peuvent prendre ta place comme la première préoccupation. Montre-nous si c'est le cas dans nos vies pour que nous puissions nous repentir. Seigneur, tu ne vas pas changer d'avis sur le péché, mais si nous venons en Christ, tu n'as pas à revenir sur ta décision, Seigneur. Le péché a été puni à la croix et nous sommes au bénéfice de ton amour, de ta grâce, de ton pardon. C'est notre reconnaissance, Seigneur, que nous voulons te montrer en vivant pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.